Section 7. J'ai raison de dire que vous avez estropié la chanson, monsieur. Outre peu, les trois premiers couplets, il est vrai, parce que vous ne les avez guère modifiés. Quant au quatrième, bon, monsieur, je vous le mets sur la conscience. Passe pour me voler, mais m'écorcher tout vif. Je vois ce que c'est. Comme j'avais volé à la fontaine les deux premiers vers de ce couplet, vous avez dit, oh, un voleur qui en vole un autre, le diable en rit. Cessons de plaisanter. Où avez-vous trouvé, monsieur, qu'il vous fût permis, même en modifiant considérablement la forme, d'insérer dans un de vos recueils une chanson qui, bien qu'elle ait paru dans les journaux, ne laisse pas que d'avoir son propriétaire à qui il peut prendre un jour fantaisie de publier son recueil tout comme à vous. Mais d'après ce principe, vous aurez le même droit de modifier considérablement les pièces de messieurs tels et tels en gâtant tant soit peu le dénouement et de les faire jouer sur un autre théâtre. Convenez, monsieur, qu'il est bien désagréable de se voir dire de semblables choses par un homme qui va monter sur l'échafaud et sans pouvoir y répondre le plus petit mot. Je l'ai dit, après avoir composé cette chanson, je n'avais nulle intention de la montrer. C'était un de ces enfants perdus, comme j'en avais déjà tant mis au monde. Mais une personne qui couchait dans ma chambre et qui avait jeté un coup d'œil sur ce que j'écrivais, s'étant aperçu que c'était des vers, me pria de les lui montrer. Je cédai. Et après les avoir lus, elle me demanda la permission de les montrer à quelqu'un. J'accordai. Je ne me doutais pas que ce fût un républicain qu'on eut l'intention de les porter. Et ces messieurs commencèrent, sans m'en demander même la permission, à en tirer une copie. Ensuite, ils demandèrent à en connaître l'auteur. On me désigna à eux. J'étais en ce moment à faire une partie de dame avec un autre voleur. Tous ces messieurs les républicains nous entourèrent. J'en fus surpris, car je ne savais rien de ce qui se passait, et je n'avais pas l'habitude de m'approcher d'eux. Lorsque la partie fut finie et que je me levai, ils m'adressèrent la parole et me félicitèrent tous à l'envi sur mes talents poétiques. Je ne suis pas tout à fait insensible à la louange, c'est vrai, quoique sous le rapport littéraire j'ai trop peu d'amour-propre. Il n'y a que la justice qui m'irrite. Je ne fus pas très flatté de ce concert de compliments. M fut l'un des plus empressés. J'ai dit et je répète que je ne me souciais nullement de la société de ces messieurs et que je les avais évités jusqu'alors. Et voici pourquoi. J'avais remarqué que, tout en faisant fi des voleurs, ils se divertissaient à les faire casser, causer et raconter leurs prouesses, en ayant même l'air d'y applaudir. De sorte que beaucoup de pauvres digos qui allaient de bonne foi pensaient, à la manière dont leurs auditeurs les écoutaient, qu'ils trouvaient leur tour charmant et qu'ils étaient émerveillés. C'était alors à qui en contrait le plus, à la grande hilarité de ces honnêtes gens qui ne s'apercevaient pas qu'ils les encourageaient dans le vice au lieu de les en détourner en riant de ce qu'ils auraient dû blâmer. Voilà tout le bien qu'ils faisaient dans les prisons. Oh, c'était de bien honnêtes gens, ces messieurs. Aussi je ne fus pas étonné lorsqu'après quelques jours d'intimité avec M. Je peux bien dire, oui, d'intimité, monsieur, puisque vous m'avez conté vos affaires de famille, vous ne faisiez pas à vos républicains, il m'avoua qu'il ne se serait jamais fait une semblable idée des voleurs. Croiriez-vous, me dit-il, que lorsque je suis arrivé à la préfecture de police, j'avais 50 francs sur moi. Il y avait une vingtaine de républicains, chacun puisé dans ma bourse, sans pressement demander permission, ni me dire seulement merci. Tandis que depuis que je suis, aucun voleur ne m'a encore rien demandé. Et cela ne m'étonnait pas, moi, car je connaissais les deux races. Comment cela se fait-il, m'avait dit Monsem, qu'un jeune homme comme vous se trouve en prison? C'est sans doute pas pour vol. « Ah, je vous demande bien pardon, lui dis-je, c'est pour vol. »« Oh, c'est donc une étourderie de jeunesse. »« La première fois, peut-être, car ceci est la seconde. »« Mais maintenant, je suis un voleur d'habitude. » » On voit que si je ne disais pas tout à M, et certes je ne pouvais pas tout lui dire, je ne cherchais pas du moins à me faire un petit saint à ses yeux et à surprendre sa confiance. Ceci est inconcevable, me dit-il, mais comment cela peut-il se faire? Parce que la société ne veut de moi à aucun prix, que je me suis jeté inutilement à la tête de tout le monde, et que ne pouvant vivre par elle, je suis obligé de vivre malgré elle. Je ne puis comprendre cela, reprit-il. On ne peut laisser de côté un homme comme vous. Vous vous êtes mal adressé, sans doute. J'espère que vous serez plus heureux avec moi. Je veux vous retirer de ce mauvais chemin. Vous aurez peut-être bien de la peine, lui dis-je. Je pense que non, me dit-il. Je suis sûr que vous n'êtes pas si corrompu que vous voudriez me le faire croire. Êtes-vous condamné, me dit-il. Oui, à 13 mois. Dans le peu de temps que j'avais à rester à la force, je fis encore 4 ou 5 chansons dont je donnai copie à M. Et un jour il me dit: Comptez-vous rester ici? Oh non, monsieur, je m'attends de jour en jour à être transféré à Poissy. Eh bien, dit-il, écoutez, je m'en vais vous laisser mon adresse. Et si vous faites quelque autre chanson, vous aurez la complaisance de me l'envoyer. Quand vous sortirez, vous viendrez me voir. Je suis certain de faire quelque chose pour vous et de vous mettre à même de gagner votre vie honnêtement. Et les antécédents, dis-je, si vous pensez ainsi, tout le monde pensera-t-il comme vous? À quels affronts, à quelle humiliation ne serais-je pas exposé? Soyez tranquille, reprit M. Vous verrez que vous aurez affaire à des gens au-dessus de ce préjugé, à de véritables philanthropes qui, ainsi que moi, feront ce qu'ils pourront pour vous. D'ailleurs, ils vous connaissent déjà, je leur ai parlé de vous, et il était question de chercher à vous employer dans votre journal. À votre sortie, ainsi, prenez courage, ne vous laissez pas abattre. Oh, je ne me laisserai jamais abattre, lui dis-je, mais je connais les hommes et j'ai déjà tant éprouvé de déceptions. Voilà, je le jure sur l'honneur. Et on se souvient qu'une personne a dit à l'audience qu'elle croyait à ma parole d'honneur. Voilà, sinon les termes précis, mais le sens exact et absolu de mes rapports avec M à la force. Certes, il y avait longtemps que je n'avais entendu une voix aussi amie. Jamais on ne m'avait fait une si belle proposition, une proposition si bien selon mon cœur. M'ouvrir un chemin dans la carrière littéraire. Mais c'était tout mon rêve de félicité accomplie. J'en aurais vécu si calme, si paisible, si honnête, une fois que j'aurais été à l'abri du besoin. C'était si beau que je n'osais y croire. Cependant, j'espérais. Adieu donc, encore une fois. Mais par rejet de vengeance, reposez-vous. Ce ne sera pas moi qui irai vous réveiller si on ne m'y force. Oui, j'ai été de bonne foi. Oui, si l'on m'eût tenu ce que l'on m'avait promis, je réparais peut-être de là le mal que j'avais fait à la société. Mais on ne l'a pas voulu, on m'a forcé de me réveiller, plus furieux que jamais. Semblable au lion à qui on a montré sa pâture et auquel on se fait un malin plaisir de la retirer pour jouir de sa rage impuissante. Gare s'il brise sa chaîne. Ma chaîne à moi, c'était un reste de pitié. Il me semble que l'on est pris à tâche de me laisser aucune issue vers le bien en rebentant le fer sur une blessure mal fermée. Je partis de la force et fus transféré à Poissy. Je négligeais toute entreprise de travail et m'adonnais exclusivement à la poésie et surtout à la chanson politique qui convenait assez bien à la tourneur de mon esprit caustique et railleur. Mais, je le répète, c'était sans conviction, c'était absolument pour vivre. Il est aisé de trouver à faire du ridicule sur quelque gouvernement que ce soit. On en eût fait sur Napoléon s'il eût mis bon ordre. Aussi que de pamphlétaires, que d'écrivains qui le louent aujourd'hui se mordraient les doigts s'il leur tombait du ciel un second. peuple lâche, qui ne prend de courage que par la faiblesse de ton adversaire. Aurais-tu fait un 29 juillet devant Napoléon, qui décimait tes enfants? Il est vrai que les morts ne revenaient pas se plaindre, et les vivants en profitaient. Ce serait cesser mon système. Cependant, je ne suis pas un conquérant. Après 2 mois de séjour à Poissy, j'envoyai à M. un manuscrit de chansons que j'avais composé jusqu'alors. Il y en avait, je pense, m'en souvenir, 16 ou 17. Je le priais de voir s'il pourrait en tirer quelque parti pour l'impression, ainsi qu'il m'avait fait espérer à la force. Voici ce qu'il me répondit le 10 décembre 1834. Monsieur, j'ai reçu le manuscrit de vos chansons que vous avez fait remettre chez moi. Je vais m'occuper activement de l'utiliser et je compte sous peu de jours avoir à vous annoncer un résultat au-delà de vos désirs. Ces derniers mots sont soulignés. Jusqu'alors, je n'avais encore rien demandé à M. Je ne voulais rien devoir qu'à mon travail et je ne voulais pas le salaire avant la peine. Cependant, quelle était ma position en ce moment? Je n'avais aucun secours du dehors. Je ne me livrais à aucune occupation manuelle, étant tout à fait absorbé par une idée fixe, celle de me faire une ressource par mes poésies. Idée que je n'avais jamais eue jusqu'alors et en laquelle M. seul m'avait donné confiance. Bien souvent, pour me procurer du papier, j'avais été obligé de vendre une partie de mon pain. Il est vrai que c'était une médiocre privation pour moi, j'en avais toujours assez. Enfin, d'après les mots de la lettre de M et ses termes, sous peu de jours, un résultat au-delà de vos désirs, voyant au bout d'une dizaine de jours que je n'avais pas d'autres nouvelles, et comme notre manière de correspondre n'était pas des plus assurées, pensant ou que sa réponse ne m'était pas parvenue, ou qu'il avait peut-être négligé de m'écrire, je pris la liberté de lui envoyer un petit mandat en le priant de vouloir bien en compter les fonds s'il avait réussi comme il me l'avait fait espérer. Le mandat me revint sans avoir été payé. 8 jours après, M. m'annonça qu'il n'avait encore rien terminé, qu'il avait bien trouvé pourtant un imprimeur, mais qui lui demandait une préface. Par le courrier suivant, je renvoyais une préface. Qu'arrivait-il pendant ce temps-là? M., à qui j'avais envoyé mon manuscrit pour en tirer parti pour moi de la manière la plus convenable, en détachait quelques chansons qu'il faisait insérer dans son journal, entre autres celle intitulée La naissance du fils du roi des Belges. Oh, je ne l'ai su que fort longtemps après. Rien de nouveau pendant quelque temps. Enfin, je reçus encore quelques lettres où il n'était nullement question de cette affaire. Je crus qu'il serait déplacé d'insister. Il se passa alors près de 3 mois sans que je reçusse de nouvelles de M. Malgré mes fréquentes lettres où je lui peignais la position dans laquelle j'allais retomber s'il m'abandonnait. Il eut à la fin la complaisance de m'écrire. C'était toujours de nouveaux encouragements. Il m'engageait à prendre patience et à ne pas les laisser abattre. Je lui répondis alors que je faisais ce que je pouvais pour cela, mais que je craignais bien qu'il fût le seul aussi bien disposé en ma faveur et que ses amis ne pensassent pas comme lui. Voici ce qu'il me répondit à la fin de sa lettre du 20 juillet 1834. Du courage, monsieur, et soyez persuadé que vous trouverez, en sortant, des cœurs disposés en votre faveur et qui ne partagent pas les préjugés dont vous vous plaignez si amèrement. Mes amis et moi ferons ce qui dépendra de nous pour vous relever à nos propres yeux et vous faire entrer dans la société. J'avais écrit à M. que ne m'occupant à Poissy que de littérature et n'ayant pas d'argent, je serais bien en peine pour me procurer les effets nécessaires à ma sortie. Il avait cessé de m'engager à continuer mes travaux littéraires. Depuis sa lettre du 20 juillet, je n'eus plus de nouvelles. Je sortis de Poissy dans le plus triste état sans argent, vêtu comme un misérable. Je n'osais me présenter ainsi chez M. J'y envoyais quelqu'un avec une lettre qui lui annonçait mon arrivée et ma position actuelle. Il me fit remettre 5 francs et me fit dire d'aller le voir le soir. J'y fus, et ce fut là que je le jugeai comme j'avais été leurré d'un faux espoir pendant toute une année. Il me dit d'abord qu'il allait s'occuper de faire quelque chose pour moi, mais qu'il fallait pour cela qu'il vît ses amis, qu'il tâcherait de me trouver ce qui m'était nécessaire pour m'habiller plus convenablement. Il me recommanda surtout de ne venir le voir que chez lui, attendu que ces messieurs trouveraient peut-être mauvais de me voir venir au bureau. Et l'on m'avait écrit que le passé était oublié, qu'on était sans préjugés. Ainsi donc, il fallut me décider à être un paria, un oiseau de nuit. Quelle philanthropie! M m'engagea à lui envoyer quelques articles en m'annonçant que le prix en était fixé à 25 francs. Au bout de quelques jours, il me remit 30 francs et quelques effets provenant d'une quête faite entre ses amis. 15 francs et une grande partie des effets avaient été offerts par une personne étrangère au journal. C'était donc 15 francs que ces messieurs me donnaient. On m'engagea alors à porter le journal. Moi porter le journal. Était-ce ce que l'on m'avait promis? J'acceptais pourtant. Étant allé attendre la distribution, je me trouvais avec des gens qui ne me convenaient pas. Je m'enfuis. Le lendemain, je fis part de mes observations à M et lui expliquai le motif pour lequel je ne pouvais accepter sa proposition. Il me dit alors qu'on serait bien aise au bureau d'avoir quelques articles sur les prisons, que personne mieux que moi ne pouvait traiter ce sujet. Je m'en occupais. J'avais déjà envoyé 2 chansons qui avaient été imprimées. Il avait été convenu qu'elles me seraient comptées comme articles. J'envoyais alors depuis 4 articles à M. Oh, j'ignore combien ont été insérés, parce que bientôt je n'eus plus à m'occuper de cette partie. Quelques jours avant la fin d'août, comme M m'avait prévenu que l'on réglait au fin de mois, je me présentai chez lui. J'étais tout à fait au dépourvu. Je ne le lui cachais pas et je le priais de me faire avoir une avance. Alors il finit par me dire: Tenez, je n'ose pas vous faire part de ce que je suis chargé de vous dire. J'en suis vraiment honteux. J'espérais qu'on serait plus juste à votre égard. Ces messieurs prétendent que, comme vous débutez, ils ne peuvent vous payer les articles que 5 francs. Et c'était pour m'amener là que l'on m'avait bercé l'espérance pendant 1 an, que je m'étais soumis à des humiliations. Mon parti fut bientôt pris. Le lendemain, je volais. Voilà, je le jure, le détail fidèle et sincère de mes relations avec M. Malgré ce que j'avais fait jusqu'alors, j'étais de bien bonne foi, je l'atteste, lorsque j'écrivais à M que si l'on m'eût ouvert une route, j'y serais entré franchement, sans arrière-pensée. Il y a quelque chose, je le pense, dans le caractère naturel de l'homme qui le fait s'écarter du mal autant qu'il peut. Moi, une fois à l'abri du besoin, je me ralliais à la société. Mais pendant les 3 mois que j'avais passés en prison, sans recevoir de nouvelles de M, j'avais pour ainsi dire deviné ce que je devais attendre. Je connaissais trop bien les hommes. J'étais donc revenu à mes anciens projets, et ce fut alors que je concertai le plan qui a échoué si souvent et principalement dans la rue Montorgueil. Cette entreprise était toutefois subordonnée à ce qui devait m'arriver. Je devais agir suivant que l'on aurait agi envers moi. C'était là le dernier essai. J'avais connu déjà Avril en 1829, mais il était trop jeune alors pour que j'eusse avec lui la moindre relation. En 1834, nous étions encore au même atelier, à côté l'un de l'autre, et nous fîmes plus ample connaissance. Il me raconta sa vie. Je connus dès lors que c'était l'homme que je cherchais. Il était fait pour moi, moins ses passions et son entêtement, car il n'avait pas l'idée d'un raisonnement. Mais je sentis que tôt ou tard, il devait arriver au crime, et je m'emparai de lui. Il devait sortir 3 mois après moi. Je lui promis de lui donner de mes nouvelles. Si j'eusse réussi auprès de M, il ne m'eût jamais revu. Mais enfin, après ma rupture avec ce dernier, Avril était encore à Poissy et je n'avais personne sur qui compter. Je fis alors diverses escroqueries qui m'aidèrent à subsister. Lorsque, dans le milieu du mois de septembre, je rencontrai Bâton sur le boulevard, il sortait aussi de Poissy depuis peu. Mais je ne m'attendais pas à le rencontrer. Il venait d'être gracié. Je l'avais fort peu connu, excepté dans les derniers temps. Il m'aborda et nous liâmes conversation. Il me proposa d'abord de voler un riche négociant qui demeurait dans la même maison que lui et qui s'absentait souvent. Après être allé prendre connaissance des lieux, je vis que cette affaire était très incertaine et pouvait nous renvoyer à une époque assez reculée. Nous avions besoin d'argent, l'un et l'autre. La mère de Bâton était une pauvre veuve qui avait encore un autre fils. Elle sautait véritablement le pain de la bouche pour ses enfants, qui ne lui en savaient aucun gré. Cependant, quoiqu'à l'abri des premiers besoins, Bâton, qui ne pouvait s'adonner à son goût pour la dépense, voulait faire son affaire à tout prix. Fallut-il répandre du sang? Je lui indiquai la mienne, sans la lui expliquer au fond. Du reste, il n'eût jamais pu la concevoir. Il était trop borné. Mais il avait trop de confiance en ma sagacité pour douter de ce que je lui affirmais. Il saisit ma proposition avec ardeur, mais nous n'avions pas d'argent. Il en fallait. Ce fut alors que je fis mes premiers faux, dans lesquels j'eus soin de faire entrer Bâton pour lui enlever toute idée de trahison. Avec l'argent qui en parvint, je louai un appartement et achetai des meubles. Avec Bâton, comme avec Avril, si je ne m'étais pas emparé de la caisse, tout eût été consommé jusqu'au dernier sou avant de songer à l'avenir. Diverses tentatives restèrent infructueuses, soit hasard, soit faute de révolution de Bâton, qui pour justifier son manque de courage me disait qu'il n'osait pas se risquer à Paris, parce que si sa mère savait qu'il était arrêté de nouveau, cela lui porterait le coup de la mort. Et cependant, presque tous les jours, à mon insu, il s'exposait à aller aux galères. Sa mère, mais il l'outrageait, sa mère, il l'insultait, il la réduisait à coucher sans drap pour satisfaire ses caprices. Bâton sait jouer la sensibilité à ravir, il pleure quand il veut. Pour être capable de tous les crimes, il lui manque un peu d'énergie. C'est de lui qu'on peut dire ce que Mirabeau disait si énergiquement d'un fameux personnage. Exoute la celerazza. « Senza problemi le culata. » J'enrageais de bonheur d'en être réduit à me servir d'un semblable instrument, et j'attendais avec impatience qu'Avril vînt me rejoindre. J'étais allé le voir et lui apporter quelque argent. Après m'être brouillé avec M immédiatement après mon premier vol, j'avais déjà cherché à mettre mon projet à exécution avec un individu que j'avais trouvé par hasard sous la main. Mais une circonstance avait tout déjoué. Cependant, une nommée Javotte en avait eu connaissance. C'était une receleuse. Un jour, ayant la raison un peu troublée par le vin, elle m'avait parlé de cette affaire et m'avait menacé devant Bâton de m'envoyer aux galères quand elle voudrait. Bâton, pour justifier ses craintes, me mettait toujours en avant le danger qu'il y avait à être dénoncé par Javotte, me disant que si notre affaire s'ébruitait après l'accomplissement, Javotte ne manquerait pas de bavarder que je serais arrêté infailliblement. Et lui aussi, par contre-coup, à raison de notre fréquentation, ce fut l'arrêt de mort de Javotte. Sous prétexte de lui vendre des marchandises volées, je l'attirai dans ma chambre rue Faubourg Saint-Martin, numéro 8. Un petit baril qui était à sa chaîne empêcha le poignard de pénétrer. Nous luttâmes ensemble pendant près d'un quart d'heure. Les voisins arrivèrent. Je me tirai de ce pas dangereux par mon sang-froid, mon adresse et ma légèreté. Après ce coup manqué, mes espérances étaient rejetées encore bien loin. J'étais encore sans argent. Quelques jours auparavant, j'avais été sur le point d'abandonner la partie, voyant que je ne pouvais arriver à rien. Il me prit envie, pour calmer l'espèce de fièvre qui me transportait, d'aller à la campagne chez un de mes oncles, pendant que cette vie tranquille apaiserait mon irritation. Et ce fut alors que je m'adressai à M. Scribe, sous le nom de Riard. Il m'obligea avec la plus grande délicatesse, et son souvenir m'eût fait hésiter à accomplir mes desseins, si dès lors je lui s'étais lancé trop avant. Cependant, je ne pus même pas partir pour la Franche-Comté, selon mon intention. Le soir même du jour où j'avais vu M. Scribe, je rencontrai une personne qui me pria de lui prêter de l'argent jusqu'au lendemain. Le lendemain et les jours suivants, je ne le revis pas, et je changeai d'idée pour revenir à celle qui dès lors était fixe chez moi. Après le coup manqué chez Javotte, je fus au garni de Pujol, où étaient quelques voleurs de ma connaissance. Je fis avec eux quelques vols avec fausses clés, qui m'aidaient à attendre la sortie d'avril. Plusieurs de ces vols, commis chez le pauvre Jean, me chargent plus la conscience que tout le reste. Une grande partie de cet argent passa où était allé, sans engloutir l'autre, en frais de location, etc. Enfin, le jour de la libération d'avril arriva. Je fus l'attendre à la porte de la prison. Toutes ses dettes payées, il emportait à peu près 200 francs. C'était autant qu'il en fallait pour arriver où je voulais. Mais à la manière dont Avril débuta, je m'aperçus bien vite que j'aurais du mal avec lui. Il semblait qu'il ne pouvait jamais dépenser assez vite son argent. Malheureusement, je pouvais alors m'emparer de la direction de la bourse. Il fallut le laisser faire, tout en rongeant mon frein. Avant d'arriver à Paris, il avait déjà semé une trentaine de francs sur la route. Ce qui me désespérait, c'est qu'à toutes mes représentations, il ne savait que me répondre, qu'il abandonnait à moi, qu'il savait bien que j'étais plus raisonnable que lui, qu'il suivrait mes conseils, mais il allait toujours son train. Ça a été depuis sa conduite ordinaire. Il était, disait-il, tout disposé à se conformer à mes avis, mais il n'en faisait toujours qu'à sa tête. En arrivant à Paris, le vin lui avait tourné la tête. Il voulut encore aller s'achever à la Courtille, malgré mes représentations. Là, il me quitta, sans me rien dire, pour aller au jeu, à ce qu'il m'a dit depuis. Il voulait se débarrasser d'un censeur incommode, et se débarrasser de son argent avant de penser au sérieux, car ce n'était pas la bonne volonté qui lui manquait. Il est certain que j'étais une bonne fortune pour lui, et que, s'il eût suivi mes conseils, nous aurions fait fortune ensemble, car j'avais, outre l'affaire de la rue Montorgueil, de vastes plans qui n'eussent jamais échoué avec lui. Il avait du courage et de la résolution. Il ne lui manquait qu'un peu plus de conduite et de savoir résister au vin. Au reste, c'est le défaut de presque tous les hommes de sa trempe. Je fus alors 8 jours sans le voir. C'est dans cet intervalle qu'il s'accointa de Frayard et de sa femme, avec qui il commit plusieurs vols. Quant à moi, je ne songeais plus à lui. Bâton était venu me retrouver et m'avait pressé de nouveau de faire ensemble une nouvelle tentative. Je n'y avais plus guère confiance, mais enfin, il m'assura tant qu'il était décidé à tout que je me rendis. Je fus trouvé Courtellier, qui me prêta un appartement qu'il avait rue Sartine, au numéro 4. Enfin, je pris toutes les mesures convenables. Nous devions nous revoir le soir, veille du jour fixé. Je fus très étonné de trouver Avril avec Bâton. Ce dernier l'avait rencontré, et comme il lui avait exposé la misère à laquelle il se trouvait réduit, et le désir qu'il aurait de me revoir, Bâton lui raconta ce que nous devions faire ensemble, et lui dit que s'il voulait, il lui céderait sa place. Il était bien aise de se mettre à l'abri du danger, pensant bien que si nous réussissions, il y aurait quelque chose pour lui, ne fût-ce que pour payer son silence. À cet égard, il se trompait, je ne le craignais pas. En m'apercevant, Bâton vint à moi et me dit, en me prenant à l'écart, qu'il avait rencontré Avril et qu'il lui avait avoué notre entreprise, et qu'Avril avait demandé à le remplacer. J'y consentis, qu'aurais-je fait d'un lâche comme Bâton? Que j'ai souffert à cette époque, au milieu de ces êtres-là, voulant la fortune et ne sachant la conquérir par aucun sacrifice, par aucun acte d'énergie. Il fallait avoir le vertige, avoir une idée aussi fixe que je l'avais pour y résister. Il fallait avoir le dessein formellement arrêté d'un suicide. On sait de quelle manière tourna cette nouvelle tentative de la rue Sartine. Le garçon de recette ne vint pas. J'ignore pourquoi Avril emporta, malgré moi, une paire de rideaux appartenant à celui qui m'avait prêté l'appartement. C'était moi qui dirigeais tout, qui paraissais en tout, qui seul risquais plus tard le danger d'une reconnaissance. Mes complices n'avaient qu'à se glisser derrière moi. Mais je m'en moquais, j'étais las de vivre. Je ne voulais qu'une mort éclatante et non un obscur suicide qui n'aurait servi en rien à ma vengeance. L'occasion ne tarda pas à se présenter. J'avais connu Chardon à Poissy en 1829. Nous étions ennemis. Des discussions d'intérêt avaient fait naître cette haine. Je ne l'avais pas revu depuis ma sortie de Poissy. Mais Bâton allait quelquefois chez lui, ainsi qu'un nommé Germain, également libéré de Poissy. Un jour, Germain étant venu chez Bâton, où j'étais en ce moment, nous trouva en train d'écrire. Il en parla à Chardon, qui, connaissant mon savoir-faire, jugea de suite que nous faisions des faux. Il ne se trompait pas. Il dit un jour à Germain, qui, semblable à Caquet-Bombec, répétait et commentait les deux côtés, qui me ferait arrêter quand il me rencontrerait. Et je savais qu'il était assez méchant pour cela. Un hypocrite, c'est tout dire. Germain, qui était aussi la noirceur même, qui ne quittait pas le domicile de Chardon, tout en le détestant, nous dit en buvant avec Bâton et moi qu'il avait vu beaucoup d'argent chez Chardon, beaucoup de larges pièces d'or à l'effigie d'Henri V, et qu'en outre, il attendait d'un jour à l'autre de la reine une somme de 10 000 francs. Il s'offrit à nous donner tous les renseignements et à nous procurer toutes les facilités possibles. Cette proposition ne me séduisait nullement. Je connaissais les deux pèlerins. Je savais que d'une part, Chardon avait beaucoup à se vanter, et de l'autre, que Germain, qui espérait avoir sa part en indiquant une semblable affaire, s'occupait peu du risque que pouvaient courir ceux qui l'attendraient. Je la rejetais donc. J'avais conçu mieux. J'avais dès lors conçu le projet d'assassiner Chardon, et les indications données par Germain m'en démontrèrent la facilité. Oh, cette affaire était par exemple telle que je la désirais. Qu'étaient ce Chardon et sa mère? Bon, je n'eus pas un instant le plus léger scrupule. Avril, à qui l'en avait été aussi parlé, J'avais cru de bonne foi que Chardon avait la poule aux œufs d'or. Il me proposa de faire cette affaire à l'aide de fausses clefs. Je ne voulus pas, en disant que Chardon m'en voulait déjà assez, qu'il savait bien que je lui en voudrais de mon côté, et que ses soupçons se porteraient naturellement sur moi, que j'avais trop à craindre pour m'exposer à me trouver en une seule minute en face de la police. Avril me proposa le premier de les assassiner. J'acceptai alors facilement, comme on doit le penser. Un jour, nous étions en route pour y aller. Je n'espérais pas y trouver plus de 300 à 400 francs, mais je m'y serais décidé pour 5 francs. Avril se ravisa. Bon, décidément, me dit-il, je ne puis me résoudre à faire cette affaire-là avec toi. Je te connais, une fois que je serai assis sous ta dépendance, tu voudras me mener comme un enfant. Je lui répondis, mais ceux qui ne me trahiront pas les premiers n'auront jamais rien à craindre de moi. Et c'était vrai. Enfin, ce jour-là, il ne se décida pas. Je ne lui en reparlai plus, mais je comptais sur la faim. 3 ou 4 jours après, un matin, en me réveillant, il me dit: tiens, si tu veux, aujourd'hui, je suis tout à fait décidé. Allons chez Chardon. Allons, répondis-je. Nous y fûmes en effet immédiatement après déjeuner. On sait le reste. Ce fut un beau jour pour moi que celui-là. Je respirais. J'étais mécontent jusque-là en me voyant enfermé vivant dans le gouffre des prisons. Quoique j'eusse versé le sang, il m'était interdit d'en revendiquer le prix, de réclamer l'échafaud qui m'appartenait. Je voulais la mort, mais non pas de mes propres mains. Que celui-là se suicide, qui, entraîné par ses seules passions, a commis un crime que sa conscience ne peut légitimer, qui regarde l'échafaud comme une infamie. Que celui-là se suicide, qui, après avoir épuisé sa santé et sa fortune dans les plaisirs de la vie, voit tout à coup santé et fortune lui échapper. Il a raison. Mais moi, qui n'avais demandé à la société que du pain assuré par mon travail, non, je ne le pouvais pas, je ne le devais pas. C'était trop inepte et pourtant je sentais que je ne devais plus vivre. Croyez-vous donc que c'était l'appât de l'or que je devais trouver chez Chardon qui m'avait poussé? Oh non! C'était une sanglante justification de ma vie, une sanglante protestation contre cette société qui m'avait repoussé. Voilà quel était mon but, mon espoir. Dès lors, plus de crainte, on pouvait me saisir quand on voudrait. Je savais comment je terminerais. Je ne risquais plus de m'abandonner au vol. Il ne s'agissait plus que de jouir encore quelques instants ou de triompher tout à fait. On a prétendu que j'avais dit que si j'avais réussi, j'aurais vécu en honnête homme, en bon père de famille. Oui, suivant les lois, c'est vrai. Oui, j'aurais été bienfaisant, j'aurais soulagé la fortune, c'est encore vrai. Mais alors je me serais adonné tout entier à ma vengeance. Laissant de côté la poésie, les plaisirs, je me serais livré à l'instruction, j'aurais étudié jour et nuit pour pouvoir saper un à un tous les principes sur lesquels un peu de censure. Et quel siècle fut plus propre que le nôtre à recevoir de semblables impressions et à les faire fructifier. Voilà quel était désormais le but de mon existence, de la fortune, si je pouvais y arriver. Mais il le fallait promptement, car j'étais là. Je passerai rapidement sur les suites du meurtre du passage du Cheval Rouge. Les débats sont là. On sait qu'Avril, pressé de jouir, ne voulut écouter aucun de mes conseils, qu'il se vit arrêter d'abord une fois, puis une seconde, et qu'il rompit ainsi notre association. Bâton revint encore à moi. Je le revis le 29 décembre au matin. Il m'engagea encore si fortement à essayer une nouvelle tentative, me promettant que rien ne l'arrêterait désormais, que j'y consentis malgré le peu de confiance que j'avais en lui. Le soir, avant de le quitter, je le priai encore de bien se consulter pour savoir ce qu'il avait à faire. Que dans de telles expéditions, il fallait être bien sûr de soi. Que s'il avait la moindre crainte, il ne me laissa pas porter mes mandats chez le banquier. À toutes mes observations, il me répondit que sa résolution était irrévocablement fixée. Ma confiance en lui n'augmenta pas, mais je l'ai dit, j'étais pressé. Le lendemain, ayant tout disposé, je fus à 7 heures du soir sur le boulevard du Temple, au passage Vendôme, où était le rendez-vous. Je vis arriver Bâton. Il était avec un autre individu. C'était François. Je ne l'avais jamais vu. Voici ce qui s'était passé. François, ancien camarade de vol de Bâton, avait su son adresse et était venu le trouver dans la matinée. Il était sans ressources et poursuivi par la police. Il avait dit à Bâton qu'il tuerait bien un homme pour 20 francs. Bâton, toujours le même et charmé de gagner de l'argent sans s'exposer, saisit cette occasion pour se débarrasser du rôle qu'il avait à jouer le lendemain. Il lui dit que, s'il était dans cette intention, il connaissait quelqu'un qui devait faire une affaire le lendemain, qui devait rapporter 50 000 francs. Il lui avoua que c'était lui qui devait être le second, mais que son associé, ne comptant pas beaucoup sur sa force, serait sans doute bien aise d'avoir un homme comme lui à sa place. François accepta de suite et le pria de le mener à moi. Bâton m'expliqua tout cela en peu de mots et me répondit du courage de François. C'était une pauvre recommandation pour moi. La suite me prouva que je n'étais pas trompé. Ce fut dans cette soirée, quand Bâton nous eut quittés, que, pour ne laisser aucune arrière-pensée à François sur mon compte, je lui appris, en retour de ses fausses confidences, que j'étais l'un des auteurs de l'assassinat de Chardon, sans toutefois lui nommer mon complice. On dira que j'étais bien imprudent, mais que m'importait, et qu'a-t-on à craindre lorsqu'on ne tient plus à la vie, lorsqu'on désire la mort? Le lendemain 31, nous nous retrouvâmes avec François et Fume à la rue Montorgueil. On connaît aussi les détails de cette tentative dont je ne parlerai pas ici. Le lendemain, nous dûmes encore nous revoir avec Bâton. Il nous rejoignit à 11 heures sur la place Royale. Nous entrâmes déjeuner chez un marchand de vin. Ce fut là qu'après avoir fait des reproches à Bâton sur sa lâcheté et toutes les fausses démarches qu'il m'avait fait faire, il finit par me dire d'arranger mes affaires comme je l'entendais et qu'il se moquait bien de moi. Il me donna même à entendre que j'avais intérêt à le ménager. « Te ménager, lâche !» lui dis-je. « C'est toi qui dois trembler devant moi. Tu ne peux que m'envoyer à la mort, moi je t'enverrai aux galères quand je voudrais. » Nous nous apaisâmes pourtant et nous sortîmes pour nous rendre à Issy, où François nous avait proposé d'aller pour voler une de ses coussines. En passant le long du boulevard et en face de la rue du Temple, je me rencontrai face à face avec Javotte, que je n'avais pas revu depuis que j'avais essayé de m'en défaire. Elle était avec un nommé Baptiste, son amant. Je voulus l'éviter, mais Baptiste vint à moi et me pria, pour éviter une scène, de venir lui parler. Et qu'autrement, elle pourrait faire quelques sottises. Elle était ivre. Je suivis Baptiste et fus parler à Javotte, qui me fit des reproches. Je lui répondis tranquillement, « Voilà ce que l'on gagne à trop parler. » Nous entrâmes chez un marchand de vin, Baptiste, Javotte, Bâton et moi. J'avais dit à François d'aller toujours devant. Il me parut assez plaisant de boire avec une personne que j'avais voulu assassiner. Le vin ramenait la fureur dans les yeux de Javotte. 3 fois, elle fut sur le point de me faire arrêter. Je regardais Baptiste. 3 fois, il l'en empêcha et fit ce qu'il put pour protéger ma retraite. Oh, j'étais bien tranquille avec lui. Il avait ses raisons pour redouter de m'avoir compromis dans une semblable affaire. Javotte m'avait dit en m'abordant, sais-tu que si je voulais, je te ferais aller aux galères pour ta vie? Eh non, imbécile, avais-je répondu. Dis plutôt que tu me ferais couper le cou. Crois-tu que je n'ai eu affaire qu'à toi et que tout le monde a eu autant de bonheur? Nous ne pûmes rien faire ici, toujours par la faute de Bâton, qui n'était bon à rien et se contentait de s'enivrer sitôt qu'on le perdait de vue. 3 jours après, nous fîmes le vol de la pendule. Avec l'argent qui en revint, François monta à la barrière où il resta plusieurs fois 2 jours avec son ami Soumagnac. Le 6, je vis entre les mains des agents de police. Il s'était arrêté pour une escroquerie qu'il avait commise avant notre rencontre. Le 7, je fus au jeu où je gagnais 300 francs. Avec cet argent, n'ayant plus rien à faire à Paris, je résolus de faire une tournée en province.